Les cours du Collège de France, Didier Fassin, chaire questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines.
Je voudrais dire d'abord quel a été le but de mon travail ces 20 dernières années. Il n'a pas été d'analyser les phénomènes de pouvoir ni de jeter les bases d'une telle analyse. J'ai cherché plutôt à produire une histoire des différents modes de subjectivation de l'être humain dans notre culture. Ainsi, Michel Foucault répond-il de manière assez surprenante à la question « Pourquoi étudier le pouvoir ?» dans un texte célèbre de 1982 qu'il a rédigé à Berkeley partiellement en anglais pour servir de postface à un ouvrage qui lui est consacré. Surprenante en effet, pour un public états-unien qui le connaît surtout à cette époque à travers sa critique des relations de pouvoir autour du savoir, de la folie, de la médecine, de la prison, il répond donc que son objet n'est pas le pouvoir. Et il la résume dans une formule sans appel, « Ce n'est donc pas le pouvoir, mais le sujet qui constitue le thème général de mes recherches. » Or, si l'on veut partir d'un fait empirique, on notera que dans les 3400 pages des deux volumes des 10 et écrits, l'entrée pouvoir est tout de même celle qui a de loin le plus grand nombre de citations. Plus que discours, philosophie, savoir, vérité et même sujet. Dans la suite de son texte californien, d'ailleurs, Michel Foucault développe une longue analyse de cet objet, le pouvoir, dont il récuse la centralité dans son œuvre, d'abord à travers les luttes par lesquelles on a résisté au pouvoir, puis à travers une généalogie remontant au pouvoir pastoral du christianisme, avant de se lancer dans une discussion méthodique des modalités de l'exercice du pouvoir. Ce déni semble relever d'un jeu rhétorique pour déconcerter son public, mais relève, je crois, plus fondamentalement d'un mode de pensée consistant à fréquemment remplacer un thème par un autre pour en faire une nouvelle clé de lecture de ses travaux, comme on l'a vu déjà à travers d'autres exemples. Ce que Frédéric Gros appelle une spirale herméneutique, dans laquelle les objets d'étude et les méthodes d'analyse se recomposent sans cesse, faisant d'ailleurs problème pour ses critiques, qui sont souvent en retard d'une ou plusieurs étapes dans leur contestation de ces idées. Pour éviter cet écueil, il sera nécessaire, une fois encore, de suivre le mouvement d'une pensée, ses reformulations, ses enrichissements, ses contradictions. Mais ne faudrait-il pas, en l'occurrence, prendre Michel Foucault au mot, non en substituant le sujet au pouvoir, comme il le suggère, mais en élargissant la perspective, c'est-à-dire en considérant que le territoire politique qu'il explore embrasse plus que le pouvoir, et peut-être même inclut du reste le sujet. Après tout, ne déclarait-il pas en 1977, dans l'une de ses assertions définitives qu'il affectionnait, que, je le cite, « la philosophie aujourd'hui est entièrement politique », ajoutant qu'elle était aussi entièrement historienne, dans la mesure où elle pose la question de ce présent qui est nous-mêmes. Ce qui conduit le philosophe australien Mark Kelly à proposer de reconstituer, au-delà des apparentes variations et fluctuations de la pensée de Michel Foucault, la cohérence de ce qu'il décrit comme une véritable philosophie politique. De son côté, le politiste états-unien Paul Brass considère que dans un temps où sa propre discipline, la science politique, s'est détachée des enjeux de pouvoir et de gouvernement qui étaient longtemps centraux, c'est à Michel Foucault qu'est revenu le mérite de reprendre ce flambeau, ce qu'il exprime avec humour en affirmant que Michel Foucault a fait main basse sur la science politique. Revendiqué à la fois donc par la philosophie politique et par la science politique, ou tout au moins par certains de leurs représentants, l'auteur de l'histoire de la sexualité s'amuserait certainement de cette double appropriation bienveillante de son œuvre, sans pour autant nécessairement se reconnaître dans l'une ou l'autre. Mais il apprécierait peut-être que son travail soit compris comme proposant une théorie politique. La plupart des exégètes de l'œuvre de Michel Foucault abordent cette théorie à travers le concept de pouvoir auquel il a en effet consacré une partie importante de son œuvre. C'est le cas de Judith Revel qui retient pouvoir comme entrée dans son vocabulaire de Foucault, et tout en comprenant ce choix, j'ai choisi pour ma part de parler de politique en miroir de la morale que j'avais préférée à l'éthique, pour réunir les éléments d'une théorie politique qui ne dit pas son nom, mais qui se construit néanmoins autour du pouvoir, certes, mais également autour de l'anatomopolitique et de la biopolitique, de la gouvernementalité et du libéralisme, de la résistance et de la guerre. Il paraît en effet intéressant de penser ensemble ces fragments qui présentent des moments de la pensée de Michel Foucault, de ses fulgurances, de ses provocations, de ses révisions, de ses tentatives sans lendemain et de ses retours en arrière. Je ne suis pas sûr, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce problème du pouvoir, d'en avoir parlé très clairement ni d'avoir employé les mots qu'il fallait, reconnaît Michel Foucault, dans l'un précisément de ses regards rétrospectifs au début de l'année 1984. Aveu qu'il corrige cependant, maintenant j'ai une idée beaucoup plus claire de tout cela. C'est là une autre façon de présenter son travail à son public, rejeter une conceptualisation antérieure pour en proposer une nouvelle, défaire pour mieux refaire. Repartons donc du début. Dans l'histoire de la folie, le pouvoir, c'est celui du souverain et de ses lettres de cachet, celui d'enfermer les insensés dans l'asile, mais surtout celui des forces obscures qui s'emparent de leur esprit et en retour celui des techniques qu'on met en œuvre pour les combattre. En dehors de sa dimension traditionnellement répressive, le pouvoir est ici doté d'une double dimension dans l'imaginaire de la société comme de ses thérapeutes et gardiens. Il rend fou et peut faire retrouver la raison. Il est aliénant et désaliénant. Dans la naissance de la clinique, cette fois, le pouvoir est associé au regard et au langage, et surtout à la vérité qui émane de l'un et de l'autre à travers la description et l'interprétation de la maladie. Le médecin et le philosophe ont d'ailleurs, dit-il, de semblables pouvoirs qui leur permettent de lire le monde par les discours qu'ils tiennent sur lui. Avec les mots et les choses, qui correspond à la période probablement la plus structuraliste de l'œuvre, quoique son auteur se soit ultérieurement défendu de cette désignation de structuraliste, c'est le pouvoir du signe, sa capacité à représenter, à classer, à ordonner, qui est au cœur de l'analyse des trois grands corpus et des disciplines qui s'y rattachent. Bien que le livre soit entièrement dédié aux formes de savoir qui se sont succédées depuis la Renaissance, la relation au pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir royal ou du pouvoir des savants et de leurs institutions, reste en filigrane du pouvoir de représentation. Ainsi, jusqu'à la fin des années 1960, la notion de pouvoir reste relativement peu théorisée et l'analyse de ses enjeux assez secondaire. Dans l'introduction qu'il a rédigée pour le volume en anglais consacré aux écrits de Michel Foucault sur le pouvoir, le chercheur britannique Colin Gordon indique que les textes sélectionnés ont été produits, donc dans ce livre, au cours des 12 dernières années de la vie de l'auteur, ce qui correspond, en effet, à ce qu'on trouve dans l'index des notions des 10 et écrits, les 3400 pages, dans lesquelles le mot pouvoir n'apparaît qu'en 1971 et encore de manière assez anecdotique à ce moment-là. Comme le souligne cet auteur, l'émergence donc de la thématique du pouvoir s'inscrit dans un double contexte, politique et intellectuel, les deux étant en partie liés. D'un côté, c'est l'effervescence dans la société de mai 1968 et des années suivantes de révolte et de répression, et dans le monde académique, de la naissance de l'université de Vincennes, avec dans les deux cas une implication forte de Michel Foucault. Et de l'autre, ce sont les premiers enseignements après l'élection au Collège de France et la préparation du grand livre sur la prison avec pour la première fois une conceptualisation de la relation entre pouvoir et savoir. En d'autres termes, dans cette période tumultueuse que traverse la France, une certaine porosité existe entre les événements du monde et l'œuvre du philosophe. La relation entre le savoir et le pouvoir, dont l'analyse va exercer une influence considérable sur les sciences sociales et les humanités, et même au-delà, apparaît de manière inattendue lors des premiers cours dans l'Antiquité grecque et le Moyen-Âge chrétien. Dans les leçons sur la volonté de savoir, c'est-à-dire le premier cours, il évoque, à partir d'une lecture d'Hésiode, la manière dont la mesure, tant sur le plan chronologique avec l'établissement d'un calendrier lunaire, que sur le plan économique avec la création d'une monnaie, fait entrer le savoir et le pouvoir dans une relation de réciprocité, ce dernier ayant besoin du premier pour affirmer son autorité et par conséquent s'engageant à son tour dans sa production. Le savoir est un service d'État et un instrument politique, affirme Michel Foucault. Dans le cours suivant, théorie et institutions pénales, dont les deux termes de l'intitulé associent justement savoir et pouvoir, théorie et institution, il s'attache à la mise en place de la procédure pénale à partir du XIIIe siècle, en France, par la création d'un dispositif de réactualisation du délit appuyé sur l'enquête et l'aveu, qui remplace ce qui était auparavant l'événement et les preuves de cette époque précédente, l'inquisition de l'Église constituant alors la forme la plus aboutie de cette procédure, avec toujours cette relation de réciprocité, je cite, « par l'enquête, le savoir crée du pouvoir qui crée du savoir ». Le fameux couple savoir-pouvoir est en train de naître. On est à l'amorce d'un changement crucial dans l'œuvre de Michel Foucault, le basculement de l'archéologie vers la généalogie, que pendant une brève période, il nomme d'ailleurs assez curieusement « dynastique ». Par exemple, dans un entretien 1972, je le cite, « Après avoir analysé les types de discours, j'essaie de voir comment ces types de discours ont pu se former historiquement et sur quelle réalité historique ils s'articulent, ce que j'appelle l'archéologie du savoir. C'est précisément le repérage et la description des types de discours et ce que j'appelle la dynastique du savoir, c'est le rapport qui existe entre ces grands discours que l'on peut observer dans une culture et les conditions historiques, les conditions économiques, les conditions politiques de leur apparition et de leur formation. Généalogie remplacera ultérieurement dynastique. Et la pénalité sera le premier terrain d'exploration de cette nouvelle méthode. Dans le cours La société punitive, il se donne un objectif simple dans sa formulation, mais évidemment complexe dans sa réalisation. Il s'agit, dit-il, de retrouver les rapports de pouvoir qui ont rendu possible l'émergence de quelque chose comme la prison. Il distingue deux éléments, l'ensemble pénal, caractérisé par l'interdit et la sanction, la loi, et l'ensemble punitif, caractérisé par le système coercitif pénitentiaire. Alors cette distinction mérite d'être rappelée car aujourd'hui encore, trop d'analyses et de réformes assimilent les deux éléments au risque de négliger l'un ou l'autre, c'est-à-dire le pénal ou le pénitentiaire, en fonction du contexte. Or, chacun d'eux relève d'une grille de lecture particulière. L'étude de l'ensemble pénal explore l'institutionnalisation de la justice qui a conduit à la théorie de l'infraction comme acte d'hostilité au souverain, écrit Michel Foucault, et l'étude de l'ensemble punitif met en lumière l'enfermement comme sanction réservée aux classes populaires et par conséquent le rôle joué par le mode de production capitaliste, toujours selon lui. Articuler le pénal et le punitif, autrement dit la philosophie morale du droit et l'économie politique de la prison, c'est ce que propose donc sa généalogie. Et pour ce faire, elle doit donner à comprendre comment les rapports de pouvoir qui ont conduit à cette forme de coercition particulière qu'est l'institution carcérale se sont appuyés sur des corpus de savoir qui se sont développés au fil des siècles, notamment savoir des philosophes et des philanthropes de la fin du XVIIIe siècle, au premier rang desquels, bien sûr, Cesare Beccaria, qui imagine les grands principes des peines, et Jeremy Bentham, qui conçoit l'architecture du panoptique carcéral, auquel s'ajouteront bien sûr savoir psychiatrique, criminologique, sociologique. C'est dans Surveiller et punir qu'est exprimée de la manière la plus claire ce qu'on peut appeler la première conception foucauldienne du pouvoir. Le double domaine de la pénalité et de la punition, c'est-à-dire de la justice et de la prison, se prête en effet bien au dévoilement des mécanismes de pouvoir. Et Michel Foucault précise en ouverture de son livre ce qu'il appelle les quatre règles générales qu'il entend suivre dans son enquête. Premièrement, le pouvoir de punir ne se réduit pas à sa seule dimension répressive. Il comporte aussi une dimension productive, qualifiée même de positive, ce qualificatif ne devant toutefois pas être pris dans un sens moral, mais comme le simple constat de ce qui est généré. Deuxièmement, les méthodes punitives ne résultent pas seulement de l'application de la loi et du travail de la justice, mais s'inscrivent dans un tissu plus large de procédés de pouvoir et doivent donc être appréhendées dans une perspective politique. Troisièmement, le droit pénal et les sciences humaines ne constituent pas des domaines indépendants susceptibles de se confronter au cours du châtiment, mais procèdent possiblement d'une matrice commune de technologie du pouvoir. Et quatrièmement, enfin, le savoir scientifique sur lequel repose l'activité des magistrats repose sur la transformation des actions du pouvoir sur les corps. En résumé, le pouvoir est répressif et productif. Il sous-tend le travail judiciaire, il s'insinue dans la philosophie morale et il investit de toutes parts le corps. En complément de ces quatre règles, il s'agit de penser la relation entre savoir et pouvoir. À cet égard, il faut peut-être, suggère Michel Foucault, je le cite, « renoncer à toute une tradition qui laisse imaginer qu'il ne peut y avoir de savoir que là où sont suspendues les relations de pouvoir et que le savoir ne peut se développer que hors de ces injonctions du pouvoir, de ses exigences et de ses intérêts. » Alors on peut penser ici par exemple aux quatre normes que le sociologue états-unien Robert Merton a proposées pour caractériser l'éthos scientifique, à savoir l'universalisme, qui suppose une neutralité de l'évaluation des connaissances, le communalisme, qui implique leur libre circulation comme un bien commun, le désintéressement dont s'assurent des dispositifs de contrôle et un scepticisme organisé que garantit l'exercice de l'esprit critique. Dans cette vision, comme vous le voyez, idéaliste du savoir, le pouvoir n'a pas de place, sauf afin d'assurer justement le bon fonctionnement de la science. Au contraire, pour Michel Foucault, je le cite, « il faut admettre que le pouvoir produit du savoir, et pas seulement en le favorisant parce qu'il le sert ou en l'appliquant parce qu'il lui est utile, que pouvoir et savoir s'impliquent directement l'un l'autre, qu'il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. » En somme, ajoute-t-il, ce n'est pas l'activité du sujet de connaissance qui produirait un savoir utile ou rétif au pouvoir, mais le pouvoir-savoir, les processus et les luttes qui le traversent et dont il est constitué, qui déterminent les formes et les domaines possibles de la connaissance. Mais il ne faut voir dans cette thèse ni manifestation de cynisme, ni conception machiavélienne de la connaissance, ni théorie conspirationniste de la science, mais une invitation à analyser dans des contextes historiques divers les formes particulières que prennent les relations entre pouvoir et savoir. Il est probablement inutile de commenter les diverses manières dont ces relations se déploient dans le monde contemporain, qu'il s'agisse aux États-Unis de la suppression d'enquêtes et de données sur l'environnement ou de la fermeture de départements d'études de genre, ou bien de manière plus globale et plus subtile souvent, des atteintes à la liberté académique, de la rétention d'informations produites dans les rapports scientifiques ou de la réduction des allocations budgétaires pour certaines disciplines. C'est là la dimension répressive du pouvoir. Et d'un autre côté, de la manipulation des statistiques économiques et sanitaires ou de l'orientation des financements de recherche vers des domaines privilégiés pour des raisons politiques. C'est ce qu'on peut appeler la dimension productive, cette fois, du pouvoir. Il faut du reste éviter de se réfugier derrière les manifestations extrêmes du contrôle du savoir par le pouvoir dans les régimes autoritaires pour se rassurer à bon compte sur les interactions ordinaires et routinières qui délimitent le champ de ce qu'il faut bannir ou tout au moins entraver de ce qui peut ou même doit être étudié et de la manière de le faire avec la constante pression de restreindre les travaux théoriques au profit d'approches de plus en plus en prise avec les attentes du marché du travail et de contenir les lectures critiques questionnant la fabrication du savoir pour leur préférer les démarches positivistes, confiantes dans l'existence d'une vérité indépendante de toute construction. Répression et production, donc. Le critique littéraire britannique Stuart Hall considère que la principale innovation de la théorie foucauldienne réside précisément dans cette reconceptualisation du pouvoir. Je le cite, « On tente à penser le pouvoir comme irradiant dans une seule direction, du sommet vers la base, et comme provenant d'une source spécifique, le souverain, l'État, la classe dirigeante. » Au contraire, pour Michel Foucault, le pouvoir circule et les relations de pouvoir imprègnent toutes les composantes de l'existence sociale. Ce qui signifie, souligne Stuart Hall, que d'une part, il nous concerne toutes et tous, oppresseurs comme opprimés, et que d'autre part, il pénètre toutes les activités humaines dans les sphères privées de la famille et de la sexualité, comme dans les sphères publiques de la politique, de l'économie et du droit. Mais surtout, ajoute-t-il, le pouvoir n'est pas seulement négatif, réprimant ce qu'il veut contrôler, il est aussi productif. C'est là une découverte qu'a faite, en effet, Michel Foucault, pour lui-même, comme il s'en explique dans un entretien de 1976 au moment où il publie La volonté de savoir. La notion de répression est insidieuse, dit-il. Ou tout au moins, pour ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de mal à m'en séparer. D'autant qu'elle semble en effet correspondre si bien à un ensemble de phénomènes qui procèdent des effets du pouvoir. Quand j'ai écrit l'histoire de la folie, j'en ai fait un usage au moins implicite. Il se réfère ici à la manière dont il y a décrit la folie comme réduite au silence par la répression politique et psychiatrique. Or, selon lui, c'est là, explique plus tard, une conception complètement négative, étroite et décharnée du pouvoir, qui le restreint à son rôle de prohibition. Et en réalité, insiste-t-il, ce qui fait que le pouvoir tient bon et qu'il est accepté, c'est qu'il traverse et produit des choses, qu'il induit du plaisir, forme des savoirs, génère des discours. Il en donne pour exemple le livre qu'il vient de publier sur la prison. Je cite, « Dans Surveiller et punir, je voulais montrer comment à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, il y avait eu un véritable essor de la productivité du pouvoir. » Alors comment cette productivité s'est-elle traduite? Il y a eu d'un côté les grands appareils d'État, que sont en particulier l'armée, la police, le fisc, et de l'autre, les multiples techniques permettant de s'insinuer dans l'ensemble du corps social à travers notamment la justice et la prison. Typiquement, au spectacle des exécutions exceptionnelles et cruelles, s'est substitué le dispositif pénal et carcéral bien plus efficace pour punir plus largement et plus différentiellement. Pour autant dire que le pouvoir n'est pas seulement répressif, mais qu'il est aussi productif, qu'il n'est pas seulement négatif, mais qu'il est aussi positif, n'implique pas un jugement de valeur. Ce n'est pas affirmer un bien ou un mieux, c'est faire le constat de ce à quoi sert le pouvoir, ou plus précisément, ce que le pouvoir fait à la société. Or, c'est cette absence de jugement qui gêne nombre de ses collègues, notamment à l'étranger. Une illustration en est le philosophe canadien Charles Taylor. Foucault déconcerte, dit-il, et de multiples manières. Et ce que lui retient concerne le trouble qu'il ressent en lisant des analyses qu'il trouve justes et saisissantes sur des changements historiques majeurs qui laissent entrevoir des améliorations possibles de l'état moral du monde, mais dans lesquelles l'auteur se refuse à admettre des bénéfices pour l'humanité. Bien que Michel Foucault dévoile les mécanismes de la domination et de la mystification, il ne les remplace pas par leur contraire, à savoir la liberté et la vérité. L'ouverture de Surveiller et punir est à cet égard, pour Charles Taylor, exemplaire, alors que le contraste entre l'exécution atroce de Damien et l'emploi du temps d'une prison de Paris lui paraît marquer un réel progrès moral dans la modernité occidentale, héritée des Lumières, le livre montre que l'adoucissement des peines supposé s'accompagne d'une extension du contrôle exercé par le pouvoir sur la société, ou plus exactement, sur certains segments de la société, à savoir les classes populaires. En admettant même, poursuit-il, que Michel Foucault décide de s'en prendre à cette nouvelle forme de domination, on se dit qu'il pourrait alors se rallier à la critique de l'humanisme que développe l'école de Francfort, en proposant une forme alternative d'émancipation. Mais il ne va pas non plus dans ce sens. La description qu'il fait des institutions, de l'école à l'atelier, révélant partout l'emprise de la discipline sur les corps. Il rejette ainsi les marxistes, comme il a rejeté les libéraux. Au fond, pour Charles Taylor, il est inconcevable de ne pas adopter une position normative énonçant ce qui doit être, et même morale, constatant ce qui est bien et ce qui est mieux. Ne faudrait-il pas en effet se réjouir du fait, je le cite, que nous avons acquis depuis le XVIIIe siècle un souci de la préservation de la vie humaine pour la réponse aux besoins humains fondamentaux et surtout pour le soulagement de la souffrance. C'est ce qu'il se demande en paraissant oublier les conquêtes coloniales, les guerres mondiales et les génocides. Or, Michel Foucault se refuse à reconnaître ces bienfaits du sentiment humanitaire dont nous serions les héritiers. La difficulté à comprendre qu'on puisse ne pas porter de jugement mais qu'on s'efforce d'examiner avec la même lucidité et la même distance différentes configurations historiques est grande, en effet lorsqu'il s'agit d'actions principalement reconnues comme éthiquement pures. Et c'est ce que j'avais moi constaté lorsque j'avais proposé ce que j'avais appelé une critique de la raison humanitaire. Elle ne consistait ni à critiquer l'action humanitaire de manière générale, ni à critiquer les acteurs de l'humanitaire en particulier, mais à proposer une réflexion critique portant sur deux aspects, la généalogie du gouvernement humanitaire, en essayant de comprendre comment on en était venu à faire entrer la compassion dans les politiques locales, nationales et mondiales, et avec quelles conséquences en termes notamment de justice sociale. Et d'autre part, l'ethnographie des pratiques humanitaires en étudiant ce qu'elles étaient sur le terrain en France, au Venezuela, en Afrique du Sud, dans les territoires palestiniens occupés, ce qu'elles impliquaient pour les populations récipiendaires de cette assistance, ce qu'elles révélaient et ce qu'elles effaçaient. Une telle enquête sur une activité à laquelle j'avais moi-même pris part n'était pas toujours comprise du fait d'une certaine intouchabilité de l'humanitaire. Ce qui, sur d'autres sujets, paraissait évident pour les sciences sociales, à savoir préférer la pensée critique à une démarche normative, pouvait devenir suspect lorsqu'on était dans le champ moral. À la question donc que posait Charles Taylor, convaincu de l'inconsistance de la théorie foucauldienne, peut-il vraiment exister une analyse du pouvoir qui ne laisse aucune place à la liberté et à la vérité? Le philosophe australien Paul Patton répond qu'il s'agit d'une méprise sur le projet, et se donne donc pour objectif non seulement de réfuter l'accusation d'incohérence, mais aussi de restituer la force de cette théorie. Car ce qui intéresse fondamentalement Michel Foucault, ce n'est pas le pouvoir en tant qu'il fait obstacle à l'expression de la liberté et l'énonciation de la vérité, c'est le pouvoir en tant qu'il produit des sujets. Comment comprendre ce processus? On peut l'entendre de deux façons au moins. Premièrement, les institutions déterminent un certain mode d'être en fonction des disciplines qu'elles imposent aux individus, par exemple en apprenant aux écoliers des règles de conduite, aux prisonniers des principes d'obéissance, aux fidèles les vertus théologales. Je proposerais de parler dans ce cas d'assujettissement. Une illustration en est donnée dans l'enquête d'Erving Goffman sur le conditionnement des malades mentaux dans un asile états-unien. Mais deuxièmement, les institutions peuvent donner existence à des manières pour les individus d'être reconnus par la société. Et par exemple, la psychiatrie a conféré une réalité phénoménologique aux hystériques et aux traumatisés, la criminologie aux délinquants et aux pédophiles, la justice aux victimes. Je suggère alors de parler de subjectivation. Un exemple en est proposé par Yana King avec l'invention du trouble de la personnalité multiple apparu à la fin du siècle, du 19e siècle. Cette distinction, Michel Foucault lui-même ne la fait pourtant pas toujours aussi clairement. Or, ce sont deux significations différentes de l'incorporation du pouvoir, c'est-à-dire de la manière dont il s'insinue dans les corps, dans les habitudes, dans les comportements. D'un côté, l'assujettissement est un apprentissage forcé, par lequel on se soumet à une autorité, l'école, la prison, l'église. De l'autre, en revanche, la subjectivation est une identification prédéfinie par laquelle on se voit assigner une place. Malade mental, ennemi social, personne lésée. Ni l'une ni l'autre de ces deux façons qu'a le pouvoir de produire des sujets ne présume cependant une subjectivité particulière au sens où peuvent l'entendre la psychologie et la psychanalyse. Le prisonnier n'adhère pas nécessairement à l'obéissance qu'il est obligé de jouer. La victime n'accepte pas forcément le statut que la société lui accorde. Dans une perspective de science sociale, on n'accède pas à l'intériorité des sujets. Tout au plus peut-on décrire le rôle qu'il aurait donné dans la société, la manière dont ils le tiennent, l'approprient, le contestent, le détournent. Un an seulement, après l'ouvrage sur la prison, sort le premier volume de l'histoire de la sexualité. Sa publication est concomitante du cours « Il faut défendre la société ». C'est une nouvelle rupture dans la trajectoire de l'œuvre foucauldienne. Rupture thématique, d'abord, double du reste. Avec dans le livre la contestation de l'hypothèse répressive et l'émergence d'une science de la sexualité, et en parallèle dans les leçons, l'introduction de la notion de la politique comme continuation de la guerre et du discours de la lutte des races comme contre-histoire. Rupture théorique ensuite, autour de la question du pouvoir, avec dans le dernier chapitre de l'ouvrage et dans la dernière séance du cours, l'irruption d'un concept et d'une thèse qui vont connaître un succès considérable dans les sciences sociales et les humanités. Le concept de biopouvoir et la thèse du passage du pouvoir souverain au biopouvoir comme marqueur de l'entrée dans la modernité occidentale. Il s'agit bien d'une rupture et non d'une contradiction, car le concept de biopouvoir n'entre pas en conflit avec la conception du pouvoir développée les années précédentes, mais c'est aussi une ouverture, car de nouveaux horizons se dessinent. On sait que Michel Foucault aime à donner des fausses pistes pour interpréter sa pensée. Mais peut-être faut-il tout de même retenir la confidence de ce qu'il livre au début du cours. Il faut défendre la société. Il déclare, je cite, « en avoir un peu assez et désirer mettre un terme à une série de recherches qu'on a faites depuis 4 ou 5 ans sans arriver à former un ensemble cohérent ni une continuité. » Des recherches dispersées, en même temps très répétitives, qui retombaient dans les mêmes ornières, dans les mêmes thèmes, dans les mêmes concepts. Qualifiant avec humour cette activité de paresse fiévreuse, il admet toutefois qu'elle conviendrait à tous ceux qui se sentent solidaires d'une des sociétés secrètes, sans doute les plus anciennes, les plus caractéristiques aussi de l'Occident, une de ces sociétés étrangement indestructibles, qui se sont formés tôt dans le christianisme, à l'époque des premiers couvents sans doute, aux confins des invasions, des incendies et des forêts, c'est-à-dire la grande, tendre, chaleureuse franc-maçonnerie de l'érudition inutile. Après cette entrée en matière pour le moins ironique, il en vient à son sujet, à savoir, je le cite, « le phénomène de la guerre et les rapports de force à l'intérieur de la société politique ». C'est cependant la fin du cours et la fin du livre que je veux examiner. Pendant longtemps, affirme Michel Foucault dans les dernières pages de La volonté de savoir, le souverain a eu un droit de vie et de mort sur ces sujets, droit que l'Empire romain étendait au père par rapport à ses enfants et à ses esclaves. On pourrait quelque peu corriger cette assertion en précisant que si le souverain exerçait effectivement son droit de tuer, ou du moins était en mesure de le faire dès lors qu'il se sentait lui-même menacé, en revanche, cette prérogative demeurait assez formelle dans le cas des pères, ainsi que l'ont montré les travaux des historiens. Mais caractérisé comme droit de vie et de mort, le pouvoir s'inscrivait en fait dans une logique plus large de prélèvement qui pouvait concerner le travail, les richesses, les corps. Ce pouvoir qu'on qualifierait aujourd'hui d'extractiviste incluait la vie même. Or, à partir du XVIIe siècle, dans les sociétés occidentales, poursuit Michel Foucault, une transformation profonde a eu lieu, renversant cette logique pour privilégier désormais la production de forces vives qu'il s'agissait alors de faire croître, de contrôler et d'ordonner. La nouvelle forme du pouvoir concerne toutefois moins les individus que la société tout entière. Il faut préserver, développer, améliorer, réguler. Non que la possibilité de donner la mort ait disparu, et on ne peut ignorer les guerres, les massacres, la menace atomique qui se sont multipliées à partir du XIXe siècle. Mais l'objectif de cette violence, réelle ou virtuelle, a désormais, selon lui, pour justification la survie du groupe, la défense de la race, la protection de la population. On n'est plus dans l'ordre juridique, mais dans l'ordre biologique. Je le cite, « Si le génocide est bien le rêve des pouvoirs modernes, ce n'est pas par un retour aujourd'hui du vieux droit de tuer, c'est parce que le pouvoir se situe et s'exerce au niveau de la vie, de l'espèce, de la race et des phénomènes massifs de population. » Le recul de la peine de mort, qui disparaîtra en France cinq ans après ce texte, atteste le déclin du droit souverain de tuer, qu'il faut cependant attribuer, souligne-t-il encore, non pas à des sentiments humanitaires, mais à la fonction du pouvoir qui n'est plus de donner la mort, mais de gérer la vie. D'où cette formule, aussi célèbre qu'obscure. On pourrait dire qu'au vieux droit de faire mourir ou de laisser vivre, s'est substitué un pouvoir de faire vivre et de rejeter dans la mort. Tel est donc ce passage, cette thèse du passage historique du pouvoir souverain au biopouvoir. Elle devient, je crois, plus claire et plus convaincante lorsqu'elle quitte le terrain de la guerre pour décliner le pouvoir sur la vie en deux modalités qui forment deux pôles de développement reliés par tout un faisceau d'intermédiaires de relations. Il y a d'abord une anatomopolitique du corps humain, correspondant à l'ensemble des disciplines qui s'exercent sur les individus à travers la famille, l'école, l'église, la caserne, l'atelier, l'hôpital, et qui consiste en un dressage du corps, je cite, la majoration de ses aptitudes, l'extorsion de ses forces, la croissance parallèle de son utilité et de sa docilité, son intégration à des systèmes de contrôle efficaces et économiques. Il y a ensuite une biopolitique des populations, correspondant aux régulations qui se manifestent sur le groupe ou sur l'espèce à travers des institutions statistiques, démographiques, sanitaires, sociales, pour dénombrer, surveiller, transformer, administrer les populations et qui opèrent, je le cite à nouveau, sur la prolifération, les naissances et la mortalité, le niveau de santé, la durée de vie, la longévité, avec toutes les conditions qui peuvent les faire varier. À travers l'anatomopolitique et la biopolitique, la plus haute part et la plus haute fonction du pouvoir est devenue d'investir la vie de part en part. On est donc ici dans une inversion de l'ancien pouvoir de mort. L'avènement du biopouvoir est non seulement un fait majeur du gouvernement des humains, il est aussi pour Michel Foucault un élément essentiel du développement du capitalisme, qui n'a pu être assuré, dit-il, qu'au prix de l'insertion contrôlée des corps dans l'appareil de production et moyennant un ajustement des phénomènes de population au processus économique. La discipline des corps a rendu ainsi les individus mieux utilisables et plus dociles. La régulation des populations a fourni une force de travail plus nombreuse et plus apte à produire. L'une et l'autre ont contribué à créer des formes de ségrégation et de hiérarchie, propices selon lui à l'établissement de rapports de domination et à l'ajustement de l'accumulation des hommes sur celle du capital. Ainsi, grâce au déploiement des multiples institutions de l'État qui interviennent sur le corps social, sur les individus, sur les familles, le pouvoir sur la vie est devenu, explique-t-il, un instrument au service du capital, de l'apprentissage des normes à la peur des sanctions, de la régulation des naissances au contrôle de l'immigration. Ce qui était vrai hier l'est encore plus aujourd'hui. On le voit dans la dissémination des systèmes d'émulation des travailleurs pour favoriser la productivité et dans le renforcement de la répression contre les mobilisations sociales pour le droit au travail. Mais on en discerne aussi les contradictions quand, face au déclin démographique, la fermeture des frontières annule les injonctions d'une politique nataliste. Jamais Michel Foucault, critique des intellectuels marxistes et critiqué par eux, ne se sera montré aussi marxiste lui-même, donnant le biopouvoir comme clé de lecture du capitalisme. L'année précédente, sollicité pour participer à une discussion sur Marx, il s'était écrié « Je ne veux plus jamais entendre parler de ce monsieur. Adressez-vous à ceux dont c'est le métier. Moi, j'en ai totalement fini avec Marx. » À l'évidence, il était loin d'en avoir terminé avec l'auteur du Capital. D'ailleurs, contre l'opinion commune selon laquelle la théorie marxiste et la pensée foucauldienne sont incompatibles, le politiste états-unien Bradley MacDonald, en s'appuyant notamment sur les écrits du philosophe italien Antonio Negri, parle de marxisme généalogique. Nul doute en tout cas que Michel Foucault, qu'il le reconnaisse ou s'en défende, ait été influencé par les idées de Marx. La théorie du biopouvoir l'atteste. Elle trouve sa forme la plus définitive dans la fameuse proclamation « Ce qu'on pourrait appeler le seuil de modernité biologique d'une société se situe au moment où l'espèce entre comme enjeu dans ses propres stratégies politiques. L'homme, pendant des millénaires, était resté ce qu'il était pour Aristote, un animal vivant et de plus capable d'une existence politique. L'homme moderne est un animal dans la politique duquel sa vie d'être vivant est en question. » Derrière cette brillante formule, un mystère et une ambiguïté cependant. Le mystère d'abord. Si prometteuse en apparence, la théorie du biopouvoir demeure cependant sans lendemain. Du moins dans les travaux de Michel Foucault. Lorsqu'il reprend son cours après une année d'interruption, il évoque avec désinvolture, au début de la première leçon, l'étude de quelque chose que j'avais appelé comme ça un petit peu en l'air le biopouvoir. C'est pour ne plus jamais y revenir. Le mot n'a même pas d'entrée dans l'index des 10 écrits. Commentant les cours « Sécurité, territoire et population » et « Naissance de la biopolitique », le philosophe Michel Sennelard observe qu'on pourrait avoir l'impression qu'ils ne font, je cite, que retracer la genèse de ce pouvoir sur la vie dans l'émergence duquel, au XVIIIe siècle, Foucault voyait une mutation capitale, l'une des plus importantes sans doute dans l'histoire des sociétés humaines. Et néanmoins, tel n'est pas le chemin emprunté. Il est question dans le premier de ces deux cours, à savoir sécurité, territoire, population, de gouvernementalité, de pouvoir pastoral, de raison d'État. Et dans le second, naissance de la biopolitique, du libéralisme, du néolibéralisme, de l'homo economicus. Jamais de pouvoir sur la vie. 7 ans plus tard, lors d'un entretien, lorsqu'on lui demande s'il ne devrait pas en écrire une généalogie, il répond « J'en ai pas le temps maintenant, mais ça pourrait se faire. En réalité, je dois le faire. » Réponse à l'évidence dilatoire. Étonnante disparition donc d'un concept éphémère qui n'aura vécu que le temps d'une leçon et d'un chapitre. L'hypothèse reste une parenthèse dans l'œuvre de son auteur. Le concept de biopolitique ne connaît pas vraiment un meilleur sort d'ailleurs. Au début du cours de 1978, il l'est mentionné au détour d'une référence à un auteur du 19e siècle sans être développé plus avant. En ouverture du cours de 1979, qui a le mot dans son intitulé « Naissance de la biopolitique ». Il annonce qu'il essaiera de le traiter, mais il reconnaît dans le résumé qu'il en donne à la fin de l'année qu'il n'en a pas parlé, s'étant concentré sur l'économie politique. Mais à la différence du biopouvoir qui disparaît complètement, la biopolitique s'efface au profit d'un concept qui propose une reformulation plus juste, libérée de l'héritage du biopouvoir, mais avec cette fois une ambiguïté. L'ambiguïté, donc. Étymologiquement, biopolitique est la combinaison de deux termes grecs, bios, la vie, dans les multiples sens de la vie en soi, des conditions de vie, des moyens pour vivre, du monde où l'on vit, et même du récit d'une vie. Et politikos, qui concerne le citoyen ou l'État, qui relève des affaires publiques, du mot polis, la cité. On pourrait donc penser que la biopolitique est tout simplement une politique de la vie. Or, tel n'est pas le cas. Comme l'indique la définition qu'en donne Michel Foucault, elle est une régulation des populations. De la vie, il n'est nullement question. Et même les thèmes de l'espèce et de la race qu'il avait initialement mobilisés n'y figurent plus. Quant à la politique, ce n'est pas l'objet de sa réflexion qui ne concerne pas ce que fait l'État, mais comment il le fait, qui porte moins sur le contenu de l'action publique que sur les technologies mises en œuvre. Ainsi, la biopolitique n'est finalement pas une politique de la vie. Elle est un gouvernement des populations. Cette clarification permet d'ailleurs de souligner l'originalité de ce concept pour lequel chacun des deux termes, gouvernement et vie, a gouvernement et population, chacun des deux termes a son importance. Premièrement, le mot population. Dans son sens contemporain, de l'ensemble des occupants d'un pays, d'une région, d'une ville, apparaît seulement au XVIIIe siècle, venant du reste de l'anglais. C'est, explique Michel Foucault, une césure absolument fondamentale qui détermine le niveau pertinent pour l'action économico-politique du gouvernement. Ce n'est plus celui des individus, c'est celui de la population, et il décrit cette dernière comme, je cite, un nouveau sujet collectif absolument étranger à la pensée juridique et politique des siècles précédents. La coupure se produit, dit-il, à l'intérieur du savoir-pouvoir. Du côté du savoir, on peut penser au début de la statistique morale et à l'hygiène publique, plus tard à la démographie et à l'épidémiologie. Et du côté du pouvoir, on peut évoquer les politiques natalistes et sanitaires, puis la planification familiale, la prévention des risques et le contrôle de l'immigration. En première approximation, il écrit donc « La souveraineté s'exerce dans les limites d'un territoire, la discipline s'exerce sur le corps des individus et enfin la sécurité s'exerce sur l'ensemble de la population. » Sécurité devant s'entendre ici du point de vue des risques de disette, d'épidémie, de désordre, autrement dit des multiples expressions de ce qu'on pourrait appeler précisément l'insécurité. Et deuxièmement, le mot « régulation » qu'il a rapidement délaissé marque toutefois l'apparition d'un thème qui va se traduire par une autre innovation lexicale. Il y avait, dit-il avant le XVIIIe siècle, un art de gouverner, qui était celui du souverain, aussi bien que de la famille, avec d'ailleurs l'idée que le souverain devait gouverner son peuple comme on pouvait gouverner une famille. Mais avec la croissance démographique et le développement économique, à quoi il faudrait probablement ajouter l'émergence de critiques de l'absolutisme royal et d'aspiration à plus de liberté, cet art de gouverner à l'ancienne s'efface progressivement au profit de ce qu'il désigne de ce, je le cite, de ce vilain mot de gouvernementalité. Tel est d'ailleurs le titre qu'il regrette de ne pas avoir donné à son cours cette année-là, Histoire de la gouvernementalité. Ce concept, qui va lui avoir une influence majeure dans les sciences sociales, désigne, je le cite, l'ensemble constitué par les institutions, les procédures, analyses et réflexions, les calculs et les tactiques qui permettent d'exercer cette forme bien spécifique, quoique très complexe, de pouvoir qui a pour cible principale la population, pour forme majeure de savoir l'économie politique, pour instrument technique essentiel les dispositifs de sécurité. Ce qui l'amène à réviser la conception habituelle de l'État comme institution unique et cohérente, trop souvent réifiée pour le fustiger ou pour le défendre. Est en jeu en effet sa permanente transformation pour s'adapter aux besoins et aux attentes de la population, tout en protégeant un certain modèle économique et en assurant des fonctions de sécurité. On doit alors parler, affirme-t-il, de gouvernementalisation de l'État. L'expression est encore plus lourde que la précédente. Derrière ces néologismes, qui sont effectivement notablement pesants, comme le reconnaît leur inventeur, il faut comprendre qu'il s'agit d'une révision de ce que semblait indiquer la thèse désormais abandonné du biopouvoir, trop massif, trop homogène, trop centralisé. En somme, il s'agit de comprendre comment le pouvoir a entrepris, depuis 3 siècles, cette activité consistant à administrer, enregistrer, mesurer, contrôler, polisser, réformer, protéger, faire croître, autrement dit, à gouverner, cette entité nouvelle imaginée qu'on appelle une population. Et pour ce faire, le pouvoir s'est appuyé sur des savoirs. Il a eu besoin de technologies, il a développé des stratégies. Ce sont ces savoirs, ces technologies, ces stratégies qui intéressent Michel Foucault. Il déplacera une fois encore sa perspective, quelques années plus tard, en parlant moins de gouvernement des populations, mais plutôt de conduite des conduites. Ce qui l'amènera, on l'a vu, à resserrer son regard sur les sujets, non plus une entité politique collective, mais désormais une subjectivité éthique individuelle. Paradoxalement, au regard de leur fugace présence dans le corpus foucaldien, comme je l'ai évoqué, le biopouvoir et plus encore la biopolitique ont donné lieu à une efflorescence de travaux internationaux. Le moteur de recherche Google Scholar donne 10 200 références scientifiques pour biopouvoir, 77 000 pour biopower, la version anglaise. Cette production scientifique est décalée dans le temps d'ailleurs de plus de deux décennies. L'application linguistique Engram Viewer, qui mesure les sources imprimées, montre que c'est seulement au début des années 2000, donc deux décennies après sa mort, que commence à se multiplier, et presque trois décennies après la création de ces concepts, que commence à se multiplier les publications sur les thèmes biopouvoir et biopower. Dans cette diffusion tardive, le rôle de ce qu'on peut appeler des passeurs de savoir aura été essentiel. Bien plus, cependant, que le biopouvoir, c'est la biopolitique qui a été une source d'inspiration pour les sciences sociales, de la sociologie à l'histoire, de l'anthropologie sociale à la théorie politique, des études féministes aux études coloniales, des travaux sur les migrations aux travaux sur les épidémies. Si l'on veut, sans pour autant les fétichiser, prendre pour indication à nouveau les instruments bibliométriques, on peut noter qu'on dénombre trois fois plus de références sur les biopolitiques que sur le biopouvoir, aussi bien en français qu'en anglais. Tandis que l'anatomopolitique, elle, reste marginale dans la production scientifique. Des trois concepts inventés par Michel Foucault, c'est donc assurément celui de biopolitique qui a eu la postérité la plus nombreuse et la plus riche. Sans prétendre à une exhaustivité compte tenu de l'importante littérature scientifique autour du biopouvoir et de la biopolitique, on peut, je crois, relever deux principales perspectives qui, tout en prenant des directions presque opposées, peuvent être pensées au regard de la conception de Michel Foucault comme complémentaires. En effet, si l'on se souvient de la formule par laquelle il définit le biopouvoir, le pouvoir de faire vivre et de rejeter dans la mort. L'une de ces perspectives se focalise précisément sur la première partie, faire vivre, et l'autre sur la seconde, rejeter dans la mort. Entre la politique de la vie même, qui porte sur les sciences du vivant, et la nécropolitique, qui examine le pouvoir de mort, aussi différente soit-elle, il existe toutefois un lieu commun, c'est la race, appréhendée à travers les développements récents de la biologie d'un côté, et à partir des violences des guerres passées et présentes de l'autre. Le sociologue britannique Nicholas Rose, après des premiers travaux d'inspiration expressément foucaldienne sur l'empire de la psychologie dans la fabrication de la subjectivité moderne, s'est tourné vers la question du vivant, et donc de la biomédecine et des biosciences, s'attachant à leurs innovations les plus récentes, avec la conviction, je le cite, que les sciences humaines et sociales peuvent apprendre quelque chose des nouvelles épistémologies de la vie. Il y étudie en particulier les avancées et les défis de la génomique à travers ses implications sociales et morales, aussi bien sur les pratiques médicales, en termes d'interprétation des risques génétiques, de production de traitements, voire d'eugénisme, que dans les travaux scientifiques, tels le Human Genome Project, qui a établi le séquençage de l'ADN humain, et le Human Genome Diversity Project, qui a analysé ce même ADN humain parmi une cinquantaine de populations dites indigènes. Comme il le montre, la quête de différentes de différences génétiques entre les groupes humains a fait émerger de nouveau le risque de racialisation, voire de raciologie, aussi bien dans l'interprétation des disparités que dans les études cliniques, les décisions thérapeutiques ou les enquêtes criminologiques. Mais il examine aussi le développement d'un biocapitalisme qui repose sur la valorisation économique des produits biologiques et d'une forme d'extractivisme qui fait de la vie une source de profit, la vie au sens de vivant. Apparemment éloigné du projet foucauldien de la discipline des corps par les institutions de l'anatomopolitique et de la régulation des populations par les dispositifs de la biopolitique, ce projet de Nicholas Rose et d'autres autour de lui l'étend de fait vers les STS, Science and Technology Studies, les études sur la science et la technologie, qu'il enrichit de nouvelles interrogations sur le faire vivre. Le philosophe et politiste camerounais Achille Mbembe suit pour sa part une orientation bien différente. Tout en reprenant le concept foucauldien de biopouvoir, il l'assimile de manière inattendue à la souveraineté, affirmant qu'être souverain, c'est exercer son contrôle sur la mortalité et définir la vie comme déploiement et la manifestation du pouvoir, et ajoutant que c'est ce que Michel Foucault entendait par biopouvoir. Là où en fait ce dernier, Michel Foucault, établissait une succession dans le temps, puisque le biopouvoir, en remplaçant le pouvoir souverain, marquait le seuil de modernité biologique des sociétés européennes. Achille Mbembe fusionne les deux en rendant visible la manière dont le monde occidental a institué sa domination sur le reste de la planète. Cette fusion entre souveraineté et biopouvoir lui permet ainsi de déplacer l'enjeu du pouvoir sur la vie vers la question du pouvoir de mort, au cœur duquel se situent les thèmes de la race et du racisme, dont les deux formes les plus manifestes dans la relation du monde occidental au continent africain, écrit-il, ont été l'esclavage et la colonisation. L'un et l'autre y déploient ce qu'il appelle un nécropouvoir, qui n'a cependant pas totalement disparu, loin de là, avec l'abolition de l'esclavage et l'ère de la décolonisation. Dans la période contemporaine, en effet, écrit-il, la forme la plus accomplie du nécropouvoir est l'occupation coloniale de la Palestine, qui repose sur la revendication d'un fondement divin du couple violence et souveraineté, autorisant une guerre totale à la fois contre les êtres humains et contre les infrastructures. L'occupation dans la bande de Gaza, écrit-il donc, en 2003, c'est-à-dire deux décennies avant 7 octobre 2023, présente les caractéristiques majeures de cette formation spécifique de la terreur qu'il a décrite dans l'État colonial, à cette différence près que la domination peut désormais s'imposer grâce à des armements extrêmement sophistiqués. En plaçant le nécropouvoir au cœur de la modernité occidentale, Achille Mbembe conteste ainsi le biopouvoir en même temps qu'il le complète. Que Michel Foucault ait développé des idées différentes, toutefois non contradictoires, à la différence de ce qu'il a fait pour le sujet, par exemple, et qu'il se soit tenu à distance d'une forme traditionnelle de normativité, car la plupart de ses écrits montrent qu'il ne se réfugiait pas dans une position de neutralité morale ou politique, n'empêche pas que ses réflexions sur le pouvoir ont ébranlé et parfois transformé la théorie politique, y compris en amenant ses opposants sur de nouveaux terrains. À partir du début des années 1970, quand il a commencé à véritablement penser le pouvoir, il n'a d'ailleurs guère varié sur une série d'éléments qui demeurent pertinents encore aujourd'hui, même s'il continue de faire l'objet de discussions. Premièrement, le pouvoir est répressif, mais il est aussi productif. Il a une valence négative, mais également une valence positive. Deuxièmement, le pouvoir s'observe sous la forme non d'une substance que posséderaient certains, mais de relations entre l'ensemble des membres de la société. Troisièmement, le pouvoir participe de la constitution et de la légitimation du savoir, lequel contribue en retour à l'asseoir et à le renforcer. Quatrièmement, le pouvoir produit des sujets par un double mécanisme d'assujettissement à travers des techniques disciplinaires et de subjectivation à travers la construction d'identité. Et cinquièmement, enfin, le pouvoir est lié à la résistance dans une relation de nécessité, chacun d'eux étant impossible sans l'autre. Deux éléments introduits tardivement dans sa réflexion semblent toutefois plus problématiques. D'une part, Michel Foucault affirme que le pouvoir, je cite, « ne s'exerce que sur des sujets libres et en tant qu'ils sont libres, en d'autres termes, des sujets individuels ou collectifs qui ont devant eux un champ de possibilités où plusieurs conduites, plusieurs réactions et divers modes de comportement peuvent prendre place. S'il n'y a pas de liberté ainsi qu'il l'entend, alors on est dans le domaine de la contrainte pure. Il récuse donc la possibilité d'une servitude volontaire telle que la formulait dans son fameux discours Étienne de la Boétie, âgé seulement alors de 16 ans, je le rappelle, et dont Gilles Deleuze et Félix Guattari faisaient le problème politique fondamental. Or, manque ici, chez Michel Foucault, une définition de ce que signifie concrètement la liberté comme champ de possibilité et semble écarter arbitrairement nombre d'exemples historiques contrariant cette possible définition. D'autre part, Michel Foucault considère que le pouvoir n'est pas en lui-même, je le cite, n'est pas en lui-même une violence qui saurait se cacher et qu'il est moins de l'ordre de l'affrontement entre deux adversaires ou de l'engagement de l'un à l'égard de l'autre que de l'ordre du gouvernement. Non qu'il ne puisse y avoir de violence qui lui soit associée, mais ce n'est pas, dit-il, du côté d'une violence qui en serait la forme primitive, le secret permanent et le recours dernier qu'il faut en chercher la signification. Cette distinction entre pouvoir et violence prolonge l'idée d'un exercice de relation entre des sujets libres. Or, si la violence est souvent un moyen pour le pouvoir, elle peut aussi en être un fondement. Ces éléments, pas de pouvoir sans liberté, pas de violence au cœur du pouvoir, posent assurément problème pour l'étude aussi bien du système de l'esclavage et des régimes totalitaires que des abus sexuels. Mais qu'on s'accorde ou non avec la conceptualisation qu'il fait du pouvoir, Michel Foucault s'est tenu à sa vision exigeante du travail de l'intellectuel, qui est, dit-il, par les analyses qu'il fait dans les domaines qui sont les siens, de réinterroger les évidences et les postulats, de secouer les habitudes, les manières de faire et de penser, de dissiper les familiarités admises, de reprendre la mesure des règles et des institutions. Et à partir de cette reproblématisation, où il joue son métier spécifique d'intellectuel, de participer, continue-t-il, à la formation d'une volonté politique où il a son rôle de citoyen à jouer. Son enquête sur le pouvoir a donc cette double vocation d'intellectuel et de citoyen. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.